Florian Lecture.
Bouillon de lecture, un bouillon d'été où on a choisi de vous lire un livre un peu plus en détail, par épisode. Nous avons choisi l'héritage de Cavanna, oui, le Cavanna de Harakiri et de Charlie Hebdo. François Cavanna est né en 1923 d'un père italien et d'une mère française. Il a vécu à Nogent-sur-Marne dans ce qu'il appelle lui-même une rue aritale. Et donc dans son livre, il raconte son enfance, la France des années 30, dans sa banlieue parisienne, avec un langage assez cru, assez imagé, qui se veut le langage de l'enfant qu'il était. Dans la première émission, Catherine, vous avez lu La rue Sainte-Anne, qui décrit le milieu rital de Nogent. On continue aujourd'hui avec trois épisodes, lus par Magali, tous tirés du même chapitre, dont un sur la façon dont François Cavanna a vécu l'arrivée du Front populaire. En 1936, il devait avoir 13 ans. Je vous laisse avec Magali et Cavanna.
Le Fernet. Le Fernet, c'est la potion magique des grands-mères. Quand tu vois un môme passer, grave, rasant les murs à cause des bousculades et portant comme le Saint-Sacrement un verre qu'il protège de son autre main étendue par-dessus, bien à plat contre les chutes de poussière, rue Sainte-Anne, on fait le ménage le soir, quand on l'a fini chez les autres, ou n'importe quand dans la journée, entre deux lessives chez les autres. Un verre à demi-plein de Fernet Branca, qu'il vient d'acheter pour 10 sous chez Madame Lozzi, le produit d'Italie de la rue Paulbert. Alors tu te dis, tiens, sa nonna qui a encore le mal de ventre. Le Fernet Branca est souverain contre le mal de ventre. Aussi contre le mal de tête, contre le mal du froid, contre le mal des bonnes femmes qui les prend tous les mois, que des fois ça les rend méchantes contre tout. Le Fernet, c'est une invention que tu peux même pas imaginer comme elle est utile. Et rien que du naturel, attention. Personne ne peut l'imiter. Impossible! Parce que c'est fait avec des plantes secrètes qui poussent seulement en Italie, dans la montagne, et il faut les cueillir au bon moment, quand la lune et les astres sont juste comme ils doivent être. Ça arrive une fois tous les 7 ans. En même temps, il faut dire la prière secrète et faire les signes. Et si c'est pas un Italien qui les cueille, ça marche pas, ça guérit rien du tout, et même ça t'étouffe. C'est les frères Branca qui l'ont inventé. La Madonna leur est apparue, elle leur a dicté la formule et montré l'endroit. Il y a leur signature sur la bouteille. Si c'est pas juste exactement la bonne signature, c'est pas du vrai Fernet. Et si tu en bois, tu vas en prison. Autour de la signature, il y a plein de médailles en or qu'on leur a données dans le monde entier, tellement qu'ils ont fait du bien à des tas de gens malades. Même des morts, ils les ont fait revenir. Mais faut pas qu'il y ait les asticots dedans. S'il a les asticots, rien à faire. Ça veut dire que l'âme est partie. Quand l'âme s'en va, les asticots peuvent venir, pas avant. Et sur l'étiquette, il y a encore un aigle qui vole en l'air et qui emporte le monde dans ses pattes. C'est pour dire que l'aigle est le plus fort de tous les oiseaux. Parce que le monde, c'est lourd, tiens, vachement. Et le Fernet, il est pareil comme l'aigle. Si tu le bois, tu deviens fort, pareil. Écho. Les Français, ils disent, c'est quoi cette saleté? Ils goûtent et ils crachent et ils toussent et ils se frottent la langue avec le mouchoir et ils gueulent que cette saloperie dégueulasse va les faire crever. Ça doit être fabriqué avec du jus de leur putain de cigare toscan tout noir, tout tordu, mis à macérer dans de la chiasse de tigre. Faut être pas normal, pas civilisé pour se taper ça. La nonna est sûrement bien malade pour avoir le courage de l'avaler. La nonna fait la langue pointue, plisse les yeux et lappe son fernet à petits lapements de chat. En geignant. Oime, che mi duelo la pancia, no so coso ad fatto al signore. Entre chaque trompette de langue, la nonna est une vieille hypocrite. Son œil rigole de gourmandise et se cligne à lui-même dans le noir fernet aux chauds reflets de goudron fondu. Le mal de ventre ravage les nonas. « Tiens, mon chéri, va masser tes 10 sous de fernet, c'est Madame Lozzi. Oui, mais qu'est-ce souffré, fais vite, mon petit lapin. Tu diras rien à la mama, eh. Qu'elle s'effarée du mauvais sang, tu comprendais. Tu diras rien, eh. Tiens, encore un sou, tout à cette radoué caramel. » La rue de Plaisance commence à la grande rue, pas loin de la mairie, et va se perdre en se tortillant là-bas, dans le boulevard de Strasbourg qui file tout droit comme un sauvage, vers la mal tournée. C'est au diable, au moins 4 kilomètres, et encore plus loin, c'est l'Allemagne. Le long de la rue de Plaisance, il y a des belles maisons avec des parcs, et il y a des couvents, pleins. C'est le quartier des couvents. Il y a aussi des jardins de maraîchers et de fleuristes, mais de moins en moins. Papa a connu la rue de Plaisance quand c'était la campagne, avec au bout le hameau de Plaisance, 3 bicoques, un bistrot et un château en ruine. Le château est toujours là, de l'autre côté du boulevard. On peut entrer par un trou dans la grille au-dessus du talus du chemin de fer. Mais faut faire gaffe, on y joue à se taper sur la gueule. Qu'est-ce qu'on se marre ? On se divise en 2 bandes. Il y a ceux qui attaquent, qui sont dans le parc, et ceux qui se défendent, qui sont dans le château. Naturellement, tout le monde veut être dans le château. C'est plus marrant, mais c'est les premiers arrivés qui s'y mettent. Alors, faut les virer de là. Et voilà, c'est justement ça le jeu. Des fois, on est une dizaine dedans et au moins le double dehors. Et alors là, ça vaut le coup, hein. Pas de règles. On a le droit de tout faire. On arrache les ardoises du toit, les marches de l'escalier, même les pierres des murs. Et on balance ça sur les gars qui donnent l'assaut. Eux, pareil. Ils nous virent sur la gueule des briques, des morceaux de statues, des billes d'acier tirées au lance-pierre triple élastique de chambre à air d'auto. Tu tues un mec comme rien avec ça. L'autre jour, Nino Simonetto avait réussi à grimper sur une espèce de terrasse. Il y avait un grand trou au milieu. Il passe la tête par le trou pour baiser les mecs dans la pièce en dessous. Et justement, il y avait Roger Pavarini, mon pote qui était là-dedans, caché sur le côté et qui guettait le trou, une brique à la main. Il voit la tête de Nino sur fond de ciel. Il lui balance sa brique de bas en haut à toute volée en pleine gueule. Roger est plus costaud que n'importe qui. Il a que 12 ans, mais on dirait Monsieur Muscle. Un Monsieur Muscle de 30 berges et vachement entraîné. Hein. Pourtant, il n'a jamais rien fait pour ça. C'est la nature. Nino, sa figure a éclaté. Il est resté mort sur le dos, la gueule en bouillie, du sang partout. On n'arrivait pas à le faire revenir. Roger lui virait des coups de tatane dans les côtes. Hé, Nino, mais merde, fais pas le con ! Et puis, il a fini par revenir, on avait eu peur. On a continué à se bagarrer jusqu'à la nuit. Ça a été dur, surtout que les attaquants avaient profité qu'on était après Nino pour se faufiler dedans. Les fumiers, alors il a fallu tous les virer, par les fenêtres, la tête en avant ou dans la cave. C'est le plus marrant parce que l'escalier est pourri à mi-étage. Il n'y a plus rien qu'un trou, tu fous les mecs en bas, ils peuvent plus remonter. Quand on en a marre, on se tire et on les laisse gueuler de toute façon. Ils finissent toujours par se démerder. Le soir, Nino, il n'osait plus rentrer à la maison. Il habite rue des Clamart, une petite maison au fond d'un sentier. Son père est forgeron. Dans la cour, il y a une enclume, une forge, des ferrailles, des cabanes avec des lapins, tout un bordel. On lui a dit « Vas-y, on est avec toi, dis que t'es tombé de vélo. S'il te croit pas, t'as qu'à lui dire de nous demander si c'est pas vrai. » Mais il n'osait pas, il avait trop la trouille avec sa gueule toute éclatée comme un melon qui serait tombé du 2e étage. Son nez qui n'en avait plus et son œil qui lui sortait de la tête. Et voilà son vieux qui l'appelle à la soupe. « Nino, tu viens, oui ou non ?» Alors Nino y est allé, en chialant d'avance. Nous, on est restés planqués, on voulait voir. Quand il a commencé à gueuler, on s'est approché. Son père l'avait couché sur l'enclume, à plat ventre, le cul à l'air. Il y allait à la ceinture, la vache, qu'est-ce qui lui laissait tomber ? Bon Dieu, j'avais jamais vu ça. Nino gueulait. Faut avoir entendu Nino gueuler. Hein. Il gueule avant que ça le touche. Tout le quartier sursaute et court aux fenêtres. Et puis ils se disent « Oh, c'est rien, encore le fils Simonetto qui a fait le con. » Et bon, ils se remettent à manger. Le vieux château est plein de merde et de mouches qui bouffent les merdes. Les mecs chient partout. Faut faire gaffe où tu mets le pied, ça schlingue. J'ai toujours un peu envie de dégueuler. Mais le parc tout autour, des fois j'y viens tout seul. Quand je fais l'école buissonnière, par exemple, c'est formidable. La jungle. Mieux que la jungle, un machin civilisé qui est redevenu jungle. Des arbres de parc rares, aux feuilles bizarres mais gigantesques, pas taillés depuis 100 000 ans, traînant par terre, noirs, bouffés tout vivant par des lianes comme ma cuisse. De la mousse en matelas, des nids partout, des branches mortes arrêtées dans leur chute, suspendues en l'air et pourrissant, couvertes de champignons rouges et de bêtes pleines de pattes. Des bassins de marbre tout cassés avec une eau noire et verte, au reflet d'huile de vidange, des statues mangées par les ronces, pas une seule entière. J'aime les parcs abandonnés. Cette nuit, en plein jour, ce silence énorme, ces appels d'oiseaux tout là-haut qui te font toucher le silence du doigt, ce mystère, tu te croirais dans un conte de fées. Tu voudrais vivre là-dedans toujours. Je raconte pas ça aux copains, ils me prendraient pour un con.
Slip sliding away, slip sliding away. You know
the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man, he came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in fear. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said a good day ain't got no rain. She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a father who had a son. He longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. He kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and headed home again. He slipped sliding, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. God only knows, God makes his plan. The information's unavailable to the mortal man. We're working our jobs, collect our pay. Believe we're gliding down the highway when in fact we're slip sliding away. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away.
Parmi les couvents des bonnes sœurs de la rue de Plaisance, il y a celui des Carmélites et il y a celui des sœurs italiennes. Quel genre de sœurs? J'en sais rien. Tout le monde dit les sœurs italiennes, c'est tout. Les sœurs italiennes ont une chapelle ouverte au public le dimanche avec un petit clocher par-dessus qui sonne comme une sonnette de porte de jardin. Les femmes de la rue Sainte-Anne iraient bien à la messe. Là, mais ça fait loin, elles font toujours tout en courant entre deux ménages, deux marchés, deux lessives. Et le dimanche matin, ouais mais c'est le grand ménage à Elsegel. Et la pasta ciudad a fare, oh i ravioli, oh i tortei. Alors, a-t-on pas le temps, avant à la grande à glisser, qui est plus près éco. Et si on fait pas ce qu'on veut dans la vie, c'est comme ça. Ah oui, i tortelli, tu voudrais bien savoir, hein? Eh bien, en vrai italien, c'est i tortellini. Je l'ai vu un jour sur le menu devant le grand cabana en face le commissaire. Peut-être que c'est pas tout à fait tortelli en dialetto. Moi, en tout cas, j'entends tortelli. Alors voilà, j'écris tortelli. Ecco. Quand les sœurs italiennes ont des travaux à faire dans leur couvent, elles appellent des maçons italiens. Pas n'importe quel maçon italien. L'entreprise Cabana, Dominique et Dominique Taravella. C'est la plus sérieuse, question travail et question religion. Et quand c'est juste pour une bricole, un volet à sceller, une chiotte à déboucher, elles veulent absolument Monsieur Gros Louvi, mon papa, moi. Elles adorent papa. Il les fait rire. Dès qu'il arrive, ça leur tire les coins de la bouche vers les oreilles, rien qu'à le voir. Il est tellement innocent, papa. Tellement limpide, pur comme un nouveau-né. Il pose sur le monde ses yeux heureux de voir clair, ses yeux qui ne croient pas au mal. Et le mal a honte d'exister. Il blague avec les sœurs, avec la mère supérieure, de ces blagues de paysans où Dieu n'a pas la part belle. Et les sœurs rient, il finit par leur taper sur le ventre, par les tirer par un coin de leur voile pour bien leur expliquer. Et le voilà qui lance son grand rire au ciel. Va donc résister. Les autres parlent aux sœurs avec un respect plein d'onction. Et ils ont raison, ça serait raté. Papa ne fait pas l'innocent, il est innocent. Il le sait, il en joue, il connaît son charme. Il sent qu'il peut tout se permettre, il te mène en bateau, te surveille mine de rien, et si tu le prends pour un con, tant pis pour toi. C'est pas lui qui dira le contraire. T'as vu les grands yeux bleus de bébé? T'as pas vu la petite lumière dans le coin? T'es passé à côté de quelque chose. Les autres couvents se sont mis aussi à apprécier les maçons italiens, en ce siècle où l'ouvrier français vote Front populaire et conchit Dieu. Papa va le dimanche bêcher le jardin des Carmélites. Un homme au Carmel. Il me raconte l'éternel silence, la clochette, les précautions. Les religieux savent parfaitement qu'il ne va jamais à la messe, même pas à Pâques, qu'il ne se soucie pas de savoir si Dieu existe ou pas. C'est lui que ça regarde là-haut, s'il a envie d'exister. C'est ses oignons. Les curés sont de braves gens, mais de gros farceurs. Ils ne passent le seuil d'une église que pour en refaire le pavage ou pour enterrer un copain. Il est plein d'histoires de curés qui couchent avec leur bonne. Ils traînent le Christ en la Madonna dans la merde quand il se cogne sur les doigts. Les Rital Cubeni le regardent de haut. Papa s'en fout.
Sono sempre detta cercherò. Troverai, mi hanno sempre detto troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine. Ed ognuno il suo corpo, chissà cosa chiedere, 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 chiedere. Fammi sognare. Lei si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi. Solitudine.
se l'America fammi sognare, lui che scende che sale, si sente l'America, fammi l'amore, lei che pensa ad un altro e si inventa l'America, fammi l'amore, guarda sempre più forte ed io sono America.
Populaire. Cubani ou pas, les Ritals ont tous l'horreur épouvantée du communisme. Ils ne savent pas ce que c'est, ils savent seulement que c'est le diable et l'abomination, le règne des feignants, des grandes gueules pleines de vinasses et des femmes en cheveux. La victoire du Front Populaire les a atterrés. J'étais trop môme, j'ai pas bien compris. Je me rappelle la stupeur effarée quand Nogent vit l'archi-bourgeoise et petite bourgeoise hermétiquement bouclée sur ses propriétés cossues aux murs opaques, quand Nogent l'a guindée, Nogent suintant le fric et la respectabilité, apprit qu'elle avait voté Front Popu, envoyé à la Chambre des députés un certain Jean Alleman, socialiste, et avait du même coup déculotté sans rémission M. Jean Goy, fasciste militant et ami personnel du chancelier Hitler. Je me souviendrai toujours. Les vainqueurs même n'osaient croire à leur victoire. Et puis soudain, l'explosion, la joie à pleine rue. D'où sortaient-ils tous, ces ouvriers hilars, ces femmes d'usine aux yeux brillants? Où se cachaient-ils avant? Des drapeaux rouges, dis donc, j'en avais jamais vu. Ils claquaient au-dessus de la foule, dans le soleil, éclaboussaient la rue, effaçaient les façades grises et les têtes effarées aux fenêtres. Il n'y avait plus qu'eux, sauvages, vulgaires, insolents. Il me faisait peur et me fascinait. La révolution était là. Je vivais la prise de la Bastille de mon livre d'histoire de France. Quelque chose me serrait la gorge, mes jambes tremblaient, et quand, mugissement énorme, jaillit l'international, j'ai pleuré d'émotion. Je suis plutôt bon public. Ils beuglaient de tout leur cœur. Ils avaient gagné. La vie allait changer, c'était fait. Ils étaient les patrons. Il n'y aurait plus de guerre, plus jamais. Plus de misère, plus de chômage. Plus de gosses crevés de tuberculose. Ils avaient fait un feu de joie sur la place du marché et ils jetaient dedans les affiches de Jean Goy, les tracts de Jean Goy. Les Ritals se terraient dans leur rue à Ritals, sombres, méprisants, guettant de loin les échos de cette fin du monde. Les femmes aux fichus noirs pleuraient et priaient, à genoux devant les crucifix dorés. Nous, les mômes, on s'était faufilés, on se gorgeait de foule, on prenait notre part de rigolades épaisses et d'émotions héroïques. Tous les visages étaient hilars, tous les yeux amis, tout était permis. On attrapait des verres de vin et même des apéros. On chantait, on dansait, on gueulait « Jean Goy, au poteau !» On se marrait comme des vaches. Les dérouillés à la rentrée, pas moi, mais les autres, qu'ils avaient pleuré la Madonna et saigné le petit Jésus, que si on les avait reconnus, on allait supprimer la carte de travail du père, c'est sûr, avec le sommage qu'il y a et tout. Et demain, tout va te confesser. Et en attendant, tourne le dos. Qu'est-ce que je vais faire voir ou pas? J'ai expliqué à papa qu'il n'y aurait plus jamais la guerre. Il m'écoutait attentivement parce que je savais lire et que j'allais à l'école. Un qui sait lire, faut écouter ce qu'il dit. Il n'y croyait pas beaucoup, mais il trouvait que c'était une bonne idée. La guerra, il est pas bon, la guerra. Lui, son régiment s'était mutiné après Caporetto. Ils avaient compté un type, tous les cinq types, et ils les avaient fusillés devant les autres. Et ceux qui restaient, ils les avaient envoyés en prison, indignes de porter les armes. « J'ai eu de la chance, ils m'auraient pu tuer en commis. » Il avait fini la guerre comme boulanger, à pétrir du pain pour ceux qui avaient l'honneur intact et couraient en pleurant au devant des mitrailleuses. Ma.
Je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos, des émotions qu'il faut taire et la guitare en bandoulière. Ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait lourd, ça fait trop. Quoi qu'il pèse, le ventre lourd pour des certes et d'amour. Je porte 100 000 drapeaux, mes idéaux et mes foutaises. Ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait lourd, ça fait trop. Aïe, 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 aïe. Ce qu'il faut, le courage pour tenir bon. Ça fait tâche, tu ne t'y attendais pas. Je porterai plus que mon bagage. Je m'en fiche si tu me trouves flash. Pas d'amour sans partage. Pas d'amour sans partage.
C'était donc un extrait du livre L'Héritage de Cavanagh, un livre de 1978 édité chez Belfond. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres extraits. À très bientôt.